Chérie, t'es sûre qu'on va dans la bonne direction là?
Oui, bien sûr, t'inquiète, je sais où je vais, il n'y a pas de souci.
10 minutes plus tard. Chérie, je pense que là on vient de repasser au même endroit où on était. T'es sûre qu'on n'est pas perdu? Tu veux pas juste demander le chemin?
Non, non, amour, t'inquiète pas, je la connais cette route, je l'ai déjà prise. On continue tout droit, c'est la deuxième à gauche, j'en suis sûr, t'inquiète pas, je sais où je suis.
10 minutes plus tard, chérie, là je crois qu'en fait on est vraiment perdu. Ça fait déjà 3 fois qu'on passe devant le café de la place, on est en train de tourner en rond.
Bon, attends, là tu m'énerves, laisse-moi tranquille, si je te dis que je sais où je suis, c'est que je sais où je suis, t'inquiète pas! Je contrôle la situation, tout va bien.
Au final, on était perdu.
On était bien, bien perdus, et en fait, ça aurait été tellement simple, juste de baisser la vitre, et de demander tout simplement à quelqu'un notre direction pour trouver l'endroit où on va. Pourquoi c'est si important pour moi, à ce moment-là, de maintenir cette illusion de maîtrise et de contrôle, plutôt que de demander mon chemin?
Bonjour, on est Aimé et Adrien de Je vais mieux, et on a réussi à mettre le doigt un peu plus précisément sur ce qu'on voudrait vous apporter. On veut vous aider à devenir la personne que vous avez envie d'être et qui vit la vie que vous avez envie de vivre. Et on veut vous aider à devenir cette personne qui vit sa vie selon ses propres conditions, d'une façon qui répond à ses besoins et ses désirs. Et pour ça, on veut vous donner les autorisations, vous encourager à avoir des attentes dans vos relations intimes, voire même des exigences, si on ose le mot, des ambitions en tout cas, à être des personnes qui vont pas se résigner, qui vont pas se contenter, qui vont pas continuer à permettre des comportements qui ne les respectent pas comme elles le méritent, mais qui au contraire vont vouloir, désirer, demander, créer, co-créer, pour obtenir ce qui répondra à leurs besoins et pour que vous puissiez vous sentir nourri par les relations, que vous n'ayez pas à renoncer à ça. On veut vous permettre de voir qui vous voulez être, selon quelles conditions vous voulez vivre votre vie, de le comprendre, et on va vous encourager pour que vous puissiez le devenir à chaque étape du chemin.
Donc en résumé, on vous aide à vous offrir à vous-même la relation intime dont vous rêvez, celle qui remplit vos besoins selon vos critères.
Je ne sais pas si vous voyez dans la série This Is Us, saison 2, épisode 6 pour être précis, une scène où Kevin et Kate, qui sont deux jumeaux, sont dans la cuisine. Ils sont en train de parler de leur vie, de se donner des nouvelles, etc. Et ils sont tous les deux en train de raconter à quel point tout est génial dans leur vie. Kate, elle vient de rencontrer un nouveau mec génial. Kevin, il a plein d'auditions, c'est génial, il va devenir une star hollywoodienne. En fait, il s'avère que le mec génial, il est marié et que juste après avoir fait l'amour avec Kate, il s'est barré aussi vite qu'il a pu en emportant limite son pantalon sous le bras. Et que Kevin, il n'a pas eu d'audition depuis plus d'un an, à tel point même qu'il a essayé de voler le rôle de son meilleur pote qui était aussi son colocataire, donc maintenant il se retrouve à la rue. Et ils sont là en train de se dire qu'ils déchirent tout dans la vingtaine, etc. Et puis petit à petit, le masque commence à tomber, à se craqueler, et ils commencent à voir l'un et l'autre qu'en fait il y a autre chose derrière. Pourtant, ils sont dans ce besoin de maintenir les apparences, les faux-semblants, et du coup, ils n'arrivent pas à être vraiment ensemble, ils n'arrivent pas à se voir tels qu'ils sont vraiment, et ils ne peuvent pas avoir une vraie discussion. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est du faux, c'est complètement fake. Mais c'est comme si c'était plus important de maintenir cette apparence et de donner cette image à l'autre. Donc l'image que l'autre a de moi est plus importante. Et il y a un truc où en fait, ils sont pas vraiment en relation dans cette scène-là.
C'est incroyable à quel point ce besoin de maintenir les apparences, quitte à, justement, comme tu viens de le dire, à ce que tout soit faux, peut dans certains cas avoir des conséquences graves. Un autre exemple, c'est Justin Baldoni, l'acteur, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Men Enough, justement, sur la honte appliquée aux hommes. Et il raconte une scène qu'il a vécue dans la série qui l'a rendue célèbre, Jane the Virgin, où il dit, en fait, pendant des mois et des mois et des mois, j'ai pas osé poser de questions. J'ai pas osé poser de questions ni au directeur, ni au technicien, ni à ma partenaire féminine, qui était pourtant une bien meilleure actrice que moi, qui avait une bien meilleure vision des scènes et qui aurait carrément pu m'aider. Mais en fait, j'ai pas osé. Pourquoi j'ai pas osé? Parce qu'en fait, je voulais maintenir l'apparence selon laquelle je suis doué, je suis intelligent, je suis cultivé, je suis talentueux. Je voulais que tout le monde pense que c'était facile pour moi, je voulais qu'on pense que j'avais la maîtrise de la situation et que tout était sous contrôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais en train de surcompenser. j'étais en train de cacher ma propre insécurité en surcompensant par une attitude de démonstration pour que tout le monde croit que, en fait, c'était facile pour moi. Alors qu'en fait, ce que j'étais en train de vivre, c'était exactement l'inverse, c'est-à-dire de l'insécurité. Et à ce moment-là, ce besoin de faux-semblant prend toute la place, quitte à ce qu'au final, la scène soit mauvaise. C'est-à-dire que le résultat de la série ne soit pas bon. Le faux-semblant est plus important que le résultat de ce que je suis en train de faire.
Oui, et quitte à ce que du coup, il apparaisse comme étant effectivement un acteur pas très très bon et qu'il soit pas réembauché derrière. Tout ça parce que l'inconfort du moment de poser une question et de oser montrer qu'il ne sait pas autant que ce qu'il veut faire croire à tout le monde et que non, ça lui vient pas tout naturellement et qu'il aurait besoin de l'aide, cet inconfort-là sur le moment lui paraît moins cher payé que le fait de endommager ou en tout cas ne pas soutenir comme il pourrait sa carrière et être repéré, etc. Et il y a vraiment quelque chose, il décrit bien comment il se bat avec sa propre honte, sa propre peur de ne pas être assez bien, d'être perçu comme étant pas assez bien par l'autre. Et il y a un troisième exemple de ça, c'est Thomas Barrow dans Downton Abbey, donc le domestique slash ensuite second majordome, qui est très très bien construit comme étant le grand méchant parmi les domestiques depuis le début, bon, et qui a un côté anguille et puis un peu impénétrable, un peu façade, fake, on sait jamais exactement ce qu'il pense vraiment, ce qu'il ressent. Et au fur et à mesure que la série avance, en fait, on découvre pourquoi, on comprend pourquoi. C'est qu'en fait, il est rongé par de la honte, parce qu'il est homosexuel, et qu'il vit avec cette conviction normal malheureusement à cette époque, que il y a quelque chose de malsain à l'intérieur de lui, qu'il est tordu, et que si ça se découvre, il va être rejeté, voire même socialement puni, emprisonné, etc. Ce qui n'est pas qu'une impression, malheureusement, pour l'époque. Mais il y a vraiment ce truc où la série nous amène à voir que, en fait, ce faux-semblant et même la souffrance qu'il inflige aux autres est en fait un reflet direct de la honte et l'insécurité avec laquelle il vit à l'intérieur de lui.
Et là aussi, comme pour Justin, en fait, ça entraîne pour lui un mécanisme de surcompensation. C'est-à-dire qu'en fait, de l'extérieur, a priori, on a l'impression qu'il est plein de confiance en lui, très déterminé, qu'il sait exactement qui il est, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va le faire et tout ça. Et il en devient même très agressif, en fait, très directif, très contrôlant autour de lui. Alors qu'en fait, ça, c'est un mécanisme de surcompensation qui cache un état intérieur de faiblesse et de doute. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'il se sent faible qu'il est en train d'agresser tout le monde.
Et oui, et ça, c'est le propre de la honte. La honte, elle fait que, comme j'ai la sensation de ne pas être suffisamment, de ne pas être à la hauteur, je vais essayer de prouver ce que je vaux. Et pour ça, je vais créer ce qu'on appelle un faux self en psychologie ou un faux soi, si on veut le dire en français pur dans le texte, qui est un masque, en fait, vraiment un personnage de façade que je me crée, qui est là pour cacher mes imperfections et vulnérabilités que je crois être non acceptables.
Et je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation d'être en train de vous jouer vous-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a presque l'impression qu'on joue un personnage qui est un peu nous-mêmes, mais pas complètement nous-mêmes, qui est comme les meilleures facettes de nous-mêmes, ou au moins celles qu'on croit être les meilleures, celles qu'on croit devoir montrer. Et en fait, on est dans une situation de représentation. Et cette représentation, en fait, elle nous empêche d'être vraiment en relation.
Oui.
Parce qu'en fait, on n'est pas nous-mêmes, on est en train de jouer un jeu. Donc forcément, ça ne nous permet pas d'être profondément en lien.
C'est ça. Et d'ailleurs, on le voit bien dans ces trois exemples, parce que le premier exemple de Kate et Kevin, en fait, ils ne sont pas en train d'avoir une vraie discussion. Et nous, on le sait, en tant que spectateurs, on connaît l'histoire qu'il y a derrière, donc on sait qu'en fait, ce n'est pas vrai. Justin, qui raconte par rapport à l'actrice avec laquelle il jouait, il raconte aussi très bien comment, à partir du moment où il a osé lui poser des questions et aller vers elle, en fait, ça a débloqué la dynamique entre eux, ça a fait un truc hyper créatif, hyper puissant, la série est devenue vraiment meilleure, et il y a vraiment une alchimie qui s'est créée entre les deux, qui pouvait pas se créer avant, tant qu'il était en train de jouer son rôle avec une mise en abîme assez rigolote. Et Thomas Barrow, c'est probablement le personnage de Downton Abbey qui est le plus isolé. Et c'est ça d'ailleurs qui est dramatique et qui est très bien montré au fur et à mesure. C'est qu'en fait, in fine, il est seul et il n'arrive pas à se faire des amis. Et quand il est dans le besoin et dans la difficulté, il n'y a personne pour l'aider. Et tout le monde le déteste. Pourquoi ? Parce qu'il a fait souffrir tout le monde. Et puis parce qu'il était inaccessible. Personne n'a pu créer de relation véritable avec lui.
Et ça, c'est la deuxième conséquence de cette construction du faux self. C'est une sensation de solitude éternelle. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau être entouré de gens, on a beau être dans la situation. Vu qu'on n'est pas réellement en lien, on vit inéluctablement cette sensation de solitude interminable, cette sensation d'être séparé de l'autre, cette sensation de pas vraiment être en lien, comme si on n'était pas vraiment visible, parce qu'on se cache derrière nos masques.
Oui, derrière une jolie vitrine et effectivement un masque, et qui est malheureusement ce qu'on reproche aussi aux réseaux sociaux, hein, c'est que du coup, on veut paraître comme ci, comme ça, et du coup, on n'est pas en fait dans une vraie relation, dans une vraie amitié, et on n'est pas vraiment vu pour ce que l'on est. Et ça, ben, en fait, paradoxalement, ou en cercle vicieux, ça nous garde prisonniers de notre honte, parce que plus on a honte de partie de nous, plus on les cache, plus on les cache, plus on renforce la croyance qu'on a bien raison d'en avoir honte et de les cacher. Et donc, on se renferme complètement à l'intérieur de nous.
Et cette sensation de solitude, justement, qui est liée au fait qu'on se cache, elle est très douloureuse. Et en fait, on se rend compte progressivement avec les études que derrière les mécanismes d'addiction, on retrouve très souvent ce mécanisme de la honte, ce mécanisme du faux self, ce mécanisme qui nous amène à avoir la sensation qu'il nous manque profondément quelque chose. C'est-à-dire que ce besoin d'être en lien véritable, c'est quelque chose de tellement puissant chez le mammifère qu'en fait, quand on ne l'a pas, ça crée à l'intérieur de nous un vide, une espèce de manque sans fin qui a besoin d'être comblé. Et on pense aujourd'hui que les mécanismes d'addiction, tout type de mécanismes addictifs, en fait, peuvent trouver leur racine dans cette sensation de honte et dans ce manque de relation sincère, ce manque de relation qui nous nourrit, en fait.
Mais les addictions, les comportements à risque, la dépression, les pensées suicidaires, tout ça. Et d'ailleurs, encore une fois, l'exemple de Kevin dans This Is Us le montre très bien. C'est que, en fait, il a des gens autour de lui. Il a une femme qu'il aime et qui ne veut qu'une seule chose, c'est d'être en relation avec lui. Il a sa sœur, il a son frère, il a sa mère, il a même un beau-père qui passe son temps à essayer de créer une relation avec lui, etc. Mais ce qu'il vit, et la série le montre très bien, c'est qu'il est profondément seul. Il croit qu'il est profondément seul et il dit « je veux juste qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider ». Alors qu'en fait, il y a plein de gens autour de lui. Et c'est ça qui est terrible, c'est que ce sentiment de solitude, c'est pas une question de « est-ce que je suis effectivement seul ou pas ?» Je peux avoir un sentiment de solitude d'une profondeur infinie, alors que pourtant j'ai des gens autour de moi, mais pourquoi ? Parce que j'arrive pas à être en relation véritable avec eux.
En fait, je ressens cette solitude parce que même si j'ai des gens à côté de moi, même s'ils m'aiment, même s'ils me le disent, même s'ils me le montrent, si moi, je ne les laisse pas rentrer, je continuerai à être seul.
Oui.
Et les laisser rentrer, c'est quoi ? C'est oser se montrer. Donc, typiquement, Kevin, il est entouré de plein de gens qui l'adulent. Le mec, c'est une star. Tout le monde l'adore. Il a plein de gens autour de lui qui sont prêts à l'aider, qui sont prêts à l'aimer, qui lui le disent, qui lui l'écrivent, qui le crient. Et pourtant, ça rentre pas.
Oui.
Ça rentre pas. Il continue à s'en sentir incroyablement seul et à vivre cette souffrance. Et d'ailleurs, il y a une étude, une méta-analyse, donc c'est une étude d'études en sociologie, qui a été conduite par Julian Holt Lundstedt, Timothy B. Smith et G. Bradley Layton, qui montre quelque chose de très intéressant par rapport à cette sensation de solitude. On constate que vivre dans un environnement avec de l'air pollué augmente de 5% les risques de mort prématurée. Si on est atteint d'obésité, ça augmente de 20%. Dans une situation dans laquelle on abuse d'alcool, de consommation alcoolique sur une longue période de temps, ça augmente de 30% nos chances de mourir prématurément. Et la statistique absolument incroyable, vivre le sentiment de solitude augmente de 45%. Les risques de mort prématurée. C'est-à-dire que la sensation de solitude à elle seule augmente le risque de mort prématurée plus que l'alcool, la pollution et quasiment l'obésité combinée. Donc on peut réellement dire aujourd'hui que la solitude, ça tue. C'est vraiment quelque chose qui nous nuit et qui nous fait profondément mal.
Oui, alors que, entre guillemets, bien sûr, il suffirait de pouvoir demander de l'aide, en fait. Et c'est justement ça dont il y aurait besoin pour que la relation soit vraie, c'est-à-dire dire « je ne sais pas », dire « j'y arrive pas », dire « là, je suis à ma limite, j'ai besoin d'aide ». Montrer ce qui ne va pas à l'intérieur de moi, c'est montrer ma vulnérabilité, qui du coup créerait une relation authentique, qui du coup apaiserait ma solitude et ma détresse, et donc faire que, en fait, j'ai plus besoin d'aide. C'est en demandant de l'aide que j'ai plus besoin d'aide, quelque part. Enfin, il y a quelque chose de ce mécanisme-là. Et encore une fois, la série This Is Us le montre très bien avec Kevin et donc la femme qu'il aime, Sophie, où elle demande qu'une seule chose, c'est de savoir comment il va, de savoir ce qui se passe. Elle sent bien qu'il y a un problème, il n'arrête pas de repousser le fait de venir la voir. Et lui, en fait, il veut pas le dire. Il est en vrac total, il est une loque complet. Mais il fait semblant, ah non, mais c'est parce que tu comprends, j'ai eu des auditions pour un film. Alors que c'est faux, tout est faux. Il est pitoyablement tout seul dans sa chambre d'hôtel, en train de boire de l'alcool à n'en plus finir. Et il n'arrive pas à juste lui dire, écoute, là, je vais pas bien, là, j'aurais besoin d'aide, là, j'y arrive pas, ou je suis tout seul et je suis en train de me noyer dans ma détresse. Il n'arrive pas à dire ça. Et pourtant, c'est ça qu'elle, elle veut entendre, et elle attend que ça. Et finalement, il va la mettre tellement à distance qu'il va finir par saboter leur relation et la perdre, donc perdre la femme de sa vie, parce qu'il n'arrive pas à être vrai dans cette relation.
Et tout ça parce qu'en fait, il a honte de lui. C'est-à-dire qu'en fait, il va jusqu'à se dénigrer lui-même. Cette femme, elle l'aime, elle lui dit, elle l'accueille, elle veut l'aider. Et lui, il n'arrive tellement pas à la faire rentrer qu'il va lui-même se dénigrer, qu'il va lui-même la rejeter, tellement qu'il a honte de qui il est.
Eh oui, ces faux semblants, on les fait parce qu'on croit que c'est comme ça qu'on va pouvoir être aimé, valorisé, estimé et respecté par l'autre. On croit que c'est justement en ne montrant que, encore une fois, ce qu'il y a de beau et de brillant et de joli, et en cachant toutes ces vulnérabilités. On a été conditionnés par la société à avoir honte de nos erreurs, de nos échecs, de nos limites, etc. On pense que ce sont des sources de honte et on pense que si l'autre voit ses vulnérabilités, alors on va perdre son estime. Il ne va plus penser autant de bien de nous.
Donc là, en fait, il y a une inversion. Il y a une inversion de la réalité parce que c'est précisément le fait d'être en vulnérabilité, d'oser se montrer en vulnérabilité, qui va créer le lien et qui va permettre l'amour véritable, donc la relation profonde, intime, dans laquelle on va pouvoir avoir confiance l'un dans l'autre, dans laquelle on va pouvoir réellement être en lien. Alors que, comme tu venais de le dire, justement, on croit que si on se montre vulnérable, alors l'autre ne va plus nous aimer et on va le perdre. Donc là, il y a une mauvaise compréhension et il y a une inversion complète de ce qui est en train de se passer.
Oui, alors qu'on voit bien que l'affection, l'amitié, l'amour, bien sûr, ne peuvent prendre leurs racines que dans une relation authentique. Si on est dans des faux-semblants et si on est en train de jouer un rôle, on n'est pas vraiment ensemble, on n'est pas vraiment en relation. Ce sont nos personnages qui sont en relation, mais ce n'est pas vraiment nous. Donc, il y a besoin de cette authenticité pour que la relation soit vraie et que du coup, on puisse aller dans cette profondeur d'affection et d'amour. Et du coup, pour qu'il puisse y avoir cette authenticité, il faut qu'il y ait la possibilité d'être en vulnérabilité. Toute vraie relation doit englober de la vulnérabilité. Si on est dans les faux-semblants, on est dans quelque chose de faux et on se ferme à l'autre, on ferme une partie de nous. Si on veut une vraie relation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de jardin secret ou de choses qui sont à nous, etc., bien sûr. Mais une relation qui est vraiment entre qui je suis profondément et qui tu es profondément, c'est-à-dire deux humains avec des imperfections, avec des vulnérabilités, avec des douleurs, avec des fragilités, avec tout ça, si on veut pouvoir être vraiment en relation l'un avec l'autre, il faut laisser tomber ces faux-semblants. Il faut accepter d'aller dans l'authenticité et du coup dans la vulnérabilité.
Et ça, ça va demander de renverser un conditionnement dans notre société. Parce que pour l'instant, souvent on croit que nos erreurs, nos échecs, nos doutes, nos incapacités sont autant de sources de honte et autant de choses qui pourraient nous faire perdre l'amour de l'autre. Donc il faudrait les cacher. Et on croit qu'en fait, on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez comme ci, qu'on est trop comme ça, qu'on ne sait pas assez de choses, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on devrait être capable de faire mieux. Mais En fait, on sait déjà même plus sur quelle échelle et dans quel standard, parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui est capable de faire mieux, et il y a toujours quelque chose de mieux à trouver quelque part. Donc, c'est en fait, ça, c'est un jeu c'est dans lequel, voilà, il y a pas de fin. Ça nous entraîne une course effrénée dans une insatisfaction permanente dans laquelle on ne peut que perdre et que souffrir. Et finalement, se dire que la vérité, c'est qu'en fait, on apprend tous les jours. Que vivre, c'est un processus. Que grandir, c'est un processus. C'est une évolution. C'est un chemin. Et qu'en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin pour construire une vie, pour construire une relation amoureuse, pour construire une famille. Tout ça, ce sont des processus qui nécessitent inéluctablement de l'apprentissage et de l'apprentissage continu. Donc forcément, des erreurs, donc forcément, des doutes sur le chemin en avançant.
Oui, et puis des choses qu'on ne sait pas faire. Et puis, ben, c'est pour ça qu'on apprend. Si on savait déjà le faire et si on savait déjà tout, on n'aurait pas besoin d'apprendre. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des moments où on va être mis au défi par la vie. Et c'est pas du tout toujours confortable ni simple. C'est même parfois très douloureux ou très difficile à vivre. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça demande toujours du courage. Mais du coup, si on peut réassocier ces événements, ces situations qui nous mettent en difficulté ou qui nous mettent face à notre vulnérabilité comme étant des challenges en fait, à relever, des défis à relever, alors on peut les voir comme des invitations à oser être soi, à réellement et authentiquement s'améliorer, parce que si j'accepte de ne pas savoir, alors je peux apprendre et alors je peux devenir meilleur, comme Justine tout à l'heure, qui en fait faisait tellement semblant de tout savoir que du coup il ne pouvait pas poser la question qui allait lui permettre de vraiment s'améliorer, alors qu'à partir du moment où il a osé demander des conseils, son jeu est devenu meilleur et la série est devenue meilleure. Donc c'est aussi le voir comme des invitations à s'améliorer effectivement, et puis surtout à pas être seul dans le processus, mais au contraire à être profondément et authentiquement en lien. Et donc ça veut dire inviter cette vulnérabilité et du coup cette authenticité dans nos relations. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite.
Et c'est vraiment de voir ça comme un atout, de voir ça comme quelque chose qui a de la valeur, comme quelque chose qui est une richesse et pas comme un problème, pas comme une faiblesse, pas comme quelque chose qu'il faudrait cacher ou quoi, mais au contraire, se dire que c'est peut-être une des plus belles définitions de l'être humain. Que, en fait, c'est l'essence même de qui on est, que c'est ça qui nous donne tant de richesse et qui nous donne vraiment la possibilité de rentrer dans une connexion profonde.
Oui. Et on vous souhaite des relations authentiques, sans fake, sans masque, sans bullshit, sans faux semblants, des vraies relations qui vont répondre à vos besoins profonds, vont vous donner la sensation d'être vraiment vu et de pouvoir vraiment voir l'autre, parce qu'il y a une vraie souffrance dans ce moment où je sens bien que tu me plais, je sens bien que je pourrais t'aimer, je sens bien que j'ai tout cet amour à te donner, mais en fait, tu te tiens à distance de moi, tu m'autorises pas à rentrer dans ta vulnérabilité, tu m'autorises pas à rentrer dans ton intimité plus que les autres personnes. Et du coup, quelque part, tu bloques mon amour, tu bloques la possibilité que je puisse t'aimer vraiment quand tu restes derrière ces faux semblants. Et du coup, on a envie de vous encourager à vous accepter effectivement d'aller dans cette vulnérabilité et de vous reconditionner, comme on disait tout à l'heure, à au contraire de ressentir de la honte par rapport à tout ça, ressentir de la fierté, ressentir que c'est précieux, ressentir que c'est ce qui va créer le lien entre nous et qui va vraiment faire que notre relation soit solide et authentique. Mais aussi, bien sûr, bah, du coup, à chercher des partenaires qui ont envie de la même chose, qui peut-être ne savent pas encore forcément le faire, mais qui ont envie d'aller dans cette authenticité, qui ont envie d'inviter cette vulnérabilité dans leur relation pour qu'elle puisse être vraiment vraie, et avec qui vous allez pouvoir créer un binôme en mode « bon, ok, ça va pas faire que plaisir, mais allons-y ensemble et créons cette relation qui va répondre à nos besoins. »
Et on vous souhaite de sentir qu'en fait, on mérite tous d'être aimés. Une des choses qui est difficile dans le fait d'accepter de faire rentrer l'autre à l'intérieur de nous, de s'exposer en vulnérabilité, c'est de se souvenir qu'en fait, on mérite cet amour. Et qu'en fait, il n'y a pas de raison de laisser l'autre à nos portes et de laisser l'autre à l'extérieur. Et en fait, on en a tous besoin. On a tous besoin de ça parce qu'on a besoin de pouvoir être soi. On a besoin de ces relations qui nous permettent d'être vraiment nous sans jouer de rôle et qui nous permettent de recevoir cet amour dont on a vraiment besoin.
La vulnérabilité est mère de l'intimité et de la connexion véritable. Là où la honte, c'est la peur d'être rejetée parce que ce que je suis ne serait pas acceptable, le fait de faire l'expérience que si, en fait, on peut s'accepter avec nos vulnérabilités mutuellement et on peut s'aimer pour qui on est vraiment et on peut chacun oser être vraiment soi dans la relation, c'est se donner le plus beau cadeau que tout être humain peut recevoir, ce sentiment d'avoir sa place telle qu'on est, qu'on n'a pas besoin d'être parfait, qu'on n'a pas besoin d'être autrement que comme on est et qu'on peut être profondément aimé pour qui on est. Donc, on n'a pas à avoir peur d'être rejeté. On a notre place, on appartient, on est là.
Alors, pour reprendre une expression courante qui dit « pour que le courant passe », qu'est-ce que ça veut dire ? Comme si, en fait, il fallait qu'il y ait des portes et quelque chose qui circule entre ces portes. Eh bien, les portes, ça sera la vulnérabilité. Ça sera la possibilité de faire rentrer quelqu'un et de nous rentrer chez quelqu'un. Et qu'est-ce qui nous permettra de circuler entre ces portes ? Ça sera le fait d'oser partager des émotions. Ce sont nos émotions, en fait, qui nous rapprochent. Ce sont nos émotions qui nous permettent de nous sentir en lien. Et pas forcément que les émotions positives. Ça peut aussi, justement, dans la vulnérabilité, être des émotions qui peuvent être douloureuses. Ça nous fait tellement du bien de pouvoir partager ces émotions.
Alors, on espère que cet épisode vous aura aidé peut-être à comprendre des mécanismes qui se jouent dans vos relations autour de vous, intimes, amicales, amoureuses, ou même avec des collègues ou des gens dont vous aimeriez bien pouvoir vous rapprocher un peu plus, mais vous sentez qu'il y a un peu cette distance, ou peut-être que vous-même, vous voyez parfois faire ça, et peut-être que ça vous aura aidé à comprendre un peu plus ce qui se passe derrière et à pouvoir imaginer que ça peut se passer autrement. On espère que ça vous aura donné envie d'inviter l'authenticité et la vulnérabilité dans vos relations pour qu'elles puissent vraiment vous nourrir, en fait, pour qu'elles puissent répondre à vos besoins. Parce que moi, je vois en tant que psychologue à quel point les gens se sentent seuls alors que, encore une fois, ils ont du monde autour d'eux, mais parce que cette relation authentique, elle n'est pas possible. Et combien de femmes j'ai entendu, parce que ben, y a plus de femmes qui vont voir un psychologue que d'hommes pour le moment, et qui me disent que voilà, elles n'ont pas réussi à créer cette connexion avec leur partenaire, qu'elles n'ont pas réussi à avoir accès à ce partenaire, qui est souvent masculin, bien sûr, puisque la majorité de ces femmes sont hétérosexuelles, et la souffrance que ça crée, en fait, de ne pas pouvoir être dans ce lien. Et on a voulu parler de ce sujet qui est pour nous tellement, tellement, tellement important, et peut-être particulièrement dans notre société de faux-semblants et de réseaux sociaux et d'images à donner, etc., de voir à quel point on a besoin de cette authenticité pour que les relations nous nourrissent et répondent à nos besoins. Et on espère que ça vous aura donné envie de devenir la femme ou l'homme qui va oser ce pari-là d'être dans sa vulnérabilité pour pouvoir être dans l'authenticité, qui va oser aussi ne pas renoncer, ne pas perdre espoir, ne pas se dire que ah ben je suis trop exigeante et il faut que je baisse mes critères, etc. Mais qui va chercher le partenaire, la partenaire qui correspond à ces critères-là, qui lui ou elle a aussi envie d'aller dans cette authenticité pour créer cette relation qui est précieuse. Et on vous souhaite une belle journée.
À très bientôt.
À bientôt.